Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
La femme arabe est un cliché qui sent bon le couscous maison et la danse des sept voiles. Et croyez-moi, ça n'est pas agréable de se balader dans la peau d'un cliché. C'est par cette phrase qu'Adila Benedjaizou commence « Heureuse comme une arabe en France », la série documentaire qu'elle a consacrée sur France Culture aux femmes issues de l'immigration nord-africaine. Née en Algérie et élevée en France, la documentariste reconnaît avoir elle-même intégré ce cliché. Alors elle essaie de le détricoter, comme elle dit, de comprendre d'où proviennent les étiquettes qui lui sont associées. La blédarde, la beurette, la fille de cité et puis évidemment la femme voilée. Adila Benedjaizou dit que c'est un peu comme une guerre de décolonisation, d'auto-décolonisation même. Car il s'agit d'essayer de se définir par soi-même avec ses propres catégories et non plus celles que les autres projettent sur vous. On pourra penser à ces questions, ou pas, en écoutant aujourd'hui l'histoire de Khadija et Mariam. Deux sœurs de 40 et 33 ans, elles ont grandi dans une famille d'origine marocaine et musulmane de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Adolescentes au début des années 2000, en plein débat sur le voile et la loi sur les signes religieux à l'école, elles étaient celles dont on parle tout le temps à la télé, les filles voilées, et à qui pourtant on ne donne jamais la parole. Alors elles l'ont prise, la parole, pour se raconter et non plus être racontées. On les écoute donc détricoter le cliché, tout de suite dans Les Pieds sur Terre, Hijab and the City, par Aladine Zayan.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Khadija, donc j'ai 40 ans. Le quartier dans lequel j'ai grandi, c'était au Val-Fouré, donc à Mantes-la-Jolie. Et on vivait donc dans un HLM. On était quand même, enfin, on était 8 dans la famille, avec les parents y compris. Donc mon père, il a travaillé dans les mines du nord de la France au début. Puis il a, comme la plupart, enfin certains papas berbères marocains, a fini en fait à l'usine, l'usine Renault. Ma mère était femme au foyer. Il savait pas lire ni écrire, mais il savait qu'il fallait qu'on fasse nos devoirs. Il savait qu'en fait, globalement, l'école, il nous faisait comprendre que c'était une façon pour nous de nous émanciper et de connaître autre chose que l'usine. Et finalement, ben, on a fait de très longues études. J'ai fait un 2SS en urbanisme et patrimoine, parce que j'avais fait pas mal de sociologie urbaine, et la ville m'intéressait. Et donc on a eu une éducation très ben, ouais, traditionnelle, mais tranquille, quoi. Très jeune, nous, on a été amenés à aller à l'école arabe, comme on dit, pour apprendre à lire et à écrire l'arabe, tout simplement parce que bah, c'est ce qui permet de lire les textes religieux. À l'époque, moi, en français, à l'école, c'était Caroline et Nicolas, c'était l'équivalent. Tilawa, c'était un petit livre, on apprenait à lire et à écrire, à apprendre les animaux, les noms d'animaux, enfin, les fleurs, les insectes, etc. Après, bah, ça te permet effectivement de pouvoir lire les textes religieux, le Coran, les hadiths. Et puis, en fait, finalement, c'est pas plus mal parce que tu comprends mieux les textes qui ont une portée poétique qui est très forte. Et quand tu les lis, bah, on dit souvent traduire, c'est trahir. Quand tu les lis en arabe, c'est différent, en fait. Et très jeune, bah, on a compris effectivement qu'il fallait aussi intégrer ouais, certaines traditions, observer certaines façons de respecter justement ces préceptes-là. Et moi, bah, jeune, ouais, j'ai porté le hijab à l'adolescence, on va dire. Parce que c'était un habit que je voyais autour de moi et que j'ai pas questionné forcément et que j'ai pas eu. Porté aussi avec un esprit militant ou de revendication, comme on pourrait le croire. Enfin, on peut l'analyser comme ça, mais en fait, pas du tout. C'est un accessoire parmi d'autres, mais qui avait effectivement vocation à afficher une certaine appartenance. Mais moi, je le lisais pas comme ça. Mantes-la-Jolie, c'est une des villes où il y a une mosquée-cathédrale, ce qu'on appelle une mosquée-cathédrale, avec un minaret, etc. C'est une des plus grandes mosquées de France. Donc, y a une forte communauté musulmane, donc voilà, c'était normal. Donc après l'université, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une formation dans l'urbain et j'ai travaillé en fait pendant 2-3 ans dans ce domaine-là. Je portais le voile autrement, en fait. Un peu en turban, on va dire, je sais pas. Et puis, est venu le jour où on m'a demandé de complètement le retirer pour intégrer une boîte. Et là, j'ai dit non, je veux pas. J'ai pas voulu parce que je me suis dit, j'ai quand même fait mes preuves, j'ai travaillé durement, j'ai les bons diplômes. Et c'est dommage de s'arrêter à une apparence. Et là, j'étais fatiguée de faire des efforts. Pour moi, j'avais fait mes preuves. Je me montrais quelque part en ayant abattu tout ce travail que ben, je devenais quelqu'un d'utile pour la société. Sauf qu'à un moment donné, on s'arrêtait encore sur mes convictions. Alors que pour moi, c'était encore accessoire, en fait. J'étais lasse de devoir à chaque fois me justifier. Et ensuite est venu le moment où j'ai voulu, en fait, aller dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que j'avais compris qu'en fait, ma différence et que mon hijab pouvait me poser problème dans mon évolution professionnelle. Avec ma sœur Mariam, déjà on a 7 ans d'écart. Et j'ai toujours été proche d'elle parce que moi je suis l'avant-dernière et donc c'est la dernière. Ce lien, on l'a cultivé, elle et moi, depuis toujours. Et naturellement, je pense que voilà, ça s'est transformé en association professionnelle. Elle voyait que sa sœur a galéré, qu'en fait, les diplômes, ça faisait pas tout. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait, bon, ben, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait écrire. On me dit, ben, on écrit. Et du coup, ben, on s'est mis à écrire. Et en fait, au début, on voulait pas trop se prendre la tête. On s'est dit, on écrit sur nous-mêmes. À des gens qui sont forcément... Il doit forcément y avoir des gens qui sont comme nous, en fait, qui doivent avoir des aspirations comme nous, qui doivent être issus aussi un peu du même milieu social que nous. Mais en même temps, on veut fédérer, on veut qu'il y ait, voilà, que ça nous permette de rencontrer des gens. Et de là est né un site éditorial qui était au départ un blog et qui est finalement devenu un site. Et je mène de City. Et c'est elle, oui, qui a donné, avec son regard jeune... à l'époque, c'était quand même la montée aussi des réseaux sociaux, celle qui a commencé à s'y intéresser, celle qui était déjà dans le blogging. Elle avait cette appétence-là que moi, j'avais pas. Moi, j'étais plus dans le milieu, essayer de voler dans un milieu professionnel classique, on va dire. Et très tôt, en fait, on a su répartir les rôles. Moi, j'étais celle qui gérait le contenu, et elle, c'était celle qui gérait le côté business. Le Hijab de 6, c'était aussi un média féministe. Hein. Le fait que les femmes doivent aussi se sortir d'une lecture trop patriarcale. On ne le disait pas comme ça à l'époque, mais c'était clairement ça. C'était une belle aventure. Hein. Une belle aventure parce qu'on s'est retrouvés à travailler avec des médias mainstream traditionnels, on va dire. Enfin, très parisiens. Et en fait, ce qui a fait notre valeur ajoutée, c'était nos personnalités.
Donc, moi, je m'appelle Mariam, j'ai 33 ans et je suis en deuxième année de thèse au sein d'un laboratoire qui s'appelle LISE, donc qui est une unité mixte de recherche du Conservatoire National des Arts et Métiers du CNRS. Et je fais une thèse en fait en sociologie du travail. J'ai eu mon bac en 2005 et c'était une année très compliquée parce que 2004-2005, c'était l'adoption de la loi sur les signes religieux à l'école. Mais tout le monde l'appelait la loi anti-voile. Et donc c'était particulier parce que donc j'étais en terminale. En fait, il y avait eu tous les débats. Et donc c'était très violent au niveau médiatique, politique et même au sein de l'école. Et en 2004, c'était l'application. Et moi, je m'étais retrouvée... Donc auparavant, en fait, on portait pas le hijab comme on le portait à l'extérieur. Mais on avait la possibilité de mettre des bandanas, des turbans. Donc le cou était dégagé, le front également. Et ensuite, bah, du jour au lendemain, on nous dit « Non, mais maintenant, vous allez devoir venir tête nue. » Aujourd'hui, j'en ris parce que j'ai grandi et que c'est du passé. Et que j'ai réussi à dépasser ça. Mais sur le moment, ça l'était pas. Et avec trois autres camarades, donc on était trois terminales et une seconde, on a été exclus. Alors, pas exclus de l'établissement, mais exclu de cours. Et le but, c'était un peu de nous faire craquer, quoi. Qu'on nous vire pour absentéisme ou pour comportement ou pour autre chose. Sauf qu'en fait, on a résisté, et grâce aussi à certains profs qui nous ont aidés. Et c'est des profs qui n'étaient pas forcément pro-voile, c'était juste des profs qui se disaient « Mais en fait, vous avez face à vous des gamines, des adolescentes. Elles sont peut-être insupportables avec leur voile, elles sont peut-être machin, mais en fait, nous, notre mission, c'est de faire en sorte qu'elles soient éduquées et qu'elles reçoivent en fait une éducation qui est gratuite et pour toutes et tous, quoi. Et c'est grâce à ces profs et à la mobilisation de certains élèves qu'on a pu réintégrer les cours. Donc j'ai passé mon bac. Une de ces profs m'avait parlé de la convention ZEP pour intégrer Sciences Po. Moi, je connaissais pas les grandes écoles et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Je l'ai fait, et en fait, après, quand j'ai passé l'oral, on m'a fait comprendre que mon foulard était problématique, là encore. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que ce qui est drôle, c'est que bon, finalement, j'ai intégré Sciences Po, mais j'ai passé le concours. Et je suis devenue enseignante aussi à Sciences Po. Et j'ai eu dans mon audience, en fait, des étudiantes avec le hijab qui venaient de la convention ZEP. Et je leur ai jamais dit. Mais chaque fois que je voyais des étudiantes et tout, j'avais un sourire parce que je me disais, on m'a dit, tu rentreras pas et encore moins avec ton foulard. J'ai fini par rentrer en Sciences Po et en plus je l'ai eu avec le concours, donc on n'allait pas me dire qu'en gros on m'avait fait l'aumône, quoi. Enfin, c'était ça. Bon, aujourd'hui j'ai un rapport beaucoup plus apaisé avec toutes ces histoires, mais à l'époque c'était ma petite revanche. Comme disait Khadija, on a manqué de rien. En fait, nos parents nous ont offert une stabilité que peu de personnes avaient d'ailleurs autour de nous, mais pour eux, voilà, en fait, l'école c'était un sanctuaire, la maison c'était un sanctuaire. Et la mosquée, c'est un sanctuaire. Et à la mosquée, on nous apprenait quand même une langue. Moi, c'est grâce à l'arabe standard que j'ai pu valider en fait mon concours Sciences Po parce que j'avais un niveau C1 et j'avais pas le niveau en anglais. Donc c'est aussi un marqueur social, quoi, que t'as pas le niveau en anglais. Mais bim, j'ai dit « Ah, mais vous prenez les autres langues ?»« Ah ben, bien sûr !» Et c'est là aussi que j'ai compris que l'arabe, c'était valorisé quand tu maîtrisais bien. Et ben voilà, merci la mosquée, j'avais un niveau C1, j'ai pu valider mon inscription à Sciences Po. En fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais été très spirituelle. Que j'ai jamais été très croyante, même si je faisais tout le temps bien mes prières. Je faisais même des concours de récitation du Coran. Donc j'étais. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect musical. J'étais un petit peu une petite insolente à l'école, mais j'étais aussi une petite insolente à la mosquée. Mais on m'aimait bien parce que j'étais drôle, quoi, et j'étais un peu un petit peu rigolote. Et donc en fait, je faisais pas toujours bien mes devoirs, mais par contre, apprendre le Coran pour le réciter en chantant, c'était mon kiff. Et surtout, ça a été encore plus mon kiff quand il y avait des concours et qu'il y avait une enveloppe d'argent à gagner. Je revenais avec un billet de 50, quoi. T'as 50 balles, c'est un truc de dingue. J'allais à Fiesta, c'était une boutique multimarque de la galerie d'Auchan. Et on se faisait des petits plaisirs, quoi. Bon, on achetait un sac East Pack, quoi. Parce qu'à 50 euros, tu vas pas très loin. Et donc, voilà. Bah, Hijab Man City, c'était de 2008 à 2011. Donc contraction de hijab, parce qu'en fait on portait le hijab et qu'on en avait marre d'entendre « Ah, vous portez le hijab ? Oui, c'est bon, ça se voit. Bon, maintenant que vous le savez, qu'on l'a déclaré, qu'on l'assume, passons à autre chose. » Et End of City, donc, parce qu'il y avait une série à l'époque qui cartonnait, qui s'appelait Sex End of City, on savait que dans l'imaginaire, c'était synonyme de féminité, stéréotypée, mais féminité exacerbée, d'urbanité. Et c'était un pied de nez, nous, c'était de la provoque, quoi. En France, en fait, quand on parlait des femmes voilées, c'était les Afghanes brimées, les Iraniennes, je sais plus quoi, les Soudanaises excisées. Donc c'était les femmes voilées musulmanes. Et nous, on disait, on n'est ni Soudanaises, ni Irakiennes, ni Iraniennes. Bon, on est solidaires parce que femmes, on est solidaires parce que plein de choses, parce qu'humanistes, mais en fait, c'est pas de notre faute, quoi. Et en fait, c'était ça, quoi. On était les femmes dont on parlait beaucoup, tout le temps, mais à qui on ne donnait jamais la parole. Et à un moment donné, on a dit « Donnez-nous le mic. Nous, on est françaises, de culture musulmane, on est des occidentales. En même temps, on n'a pas honte de nos origines, mais on n'en est pas non plus fiers. En fait, on n'a pas choisi tout ça. Mais on a des choses à dire. On a des choses à dire qui peuvent concerner plein d'autres femmes. Mais on a aussi, faut pas se mentir, on a aussi des spécificités culturelles qui font que t'as des femmes traumatisées qui t'écrivent des courriers d'électrice pour te dire mon père m'a dégagée de chez moi parce qu'il a découvert que j'avais un petit copain. Machin veut que je porte le hijab alors que moi j'en ai pas vraiment envie, etc. Et en fait, on n'avait pas de tabou. Et le but, c'était pas de dire ça n'existe pas, toutes ces questions. C'était de dire « ça peut exister, mais n'en faites pas en fait une généralité et ne tirez pas ça en épingle pour en faire une affaire nationale ». On publiait, donc on commençait à avoir des rubriques, on parlait de lifestyle, on parlait de société, et puis en fait on était deux, après on a engrainé une copine, deux copines, après c'est devenu une trentaine de contributeurs et de contributrices, surtout des contributrices. Et en plus, on recevait chaque semaine une centaine de courriers d'électrices, qui, toujours sur les mêmes questions, toutes les questions qu'on appelle tabous, la sexualité, hors mariage, les mariages mixtes, les problèmes, quoi. Ça cartonnait, on avait plus de 300 000 visiteurs uniques par mois, c'était énorme. Les gens pensaient qu'on vivait la vida loca, mais nous, en fait, on donnait des cours de soutien scolaire, on faisait du télémarketing, c'était rude, quoi. Et donc, en fait, on a grandi avec ce webzine, avec ce média. Et donc, à un moment donné, bah, on évolue, en fait. On évolue intellectuellement, spirituellement. En fait, je savais que je voulais plus garder mon hijab. Et à cette époque-là, bah, j'étais en mode, ouais, j'y crois plus, je crois plus en tout ça, je crois plus en la religion. Et c'est très désenchantant de ne plus croire et de voir, en fait, tout ce qu'on vous a transmis dans votre éducation, tout ce qu'on a considéré comme étant une sorte d'héritage, en fait, dématérialisé. C'est très désenchantant de ne plus croire. Donc c'était dur, en fait, cette époque. Et retirer le hijab, c'était vraiment le dernier truc qu'il fallait que je fasse. Mais je savais pas comment le faire. Parce qu'un truc tout con aussi, j'ai porté le hijab très tôt. Donc moi, en fait, mes cheveux, je les ai toujours couverts. Je savais pas, en fait, comment je devais me coiffer, comment faire. Et parmi les choses aussi qui m'ont encouragée à remettre en question mon hijab, c'est que j'avais aussi... C'était une période aussi où j'avais commencé à faire du sport. Et beaucoup de sport. Et en fait, j'ai développé un rapport à mon corps qui était complètement différent. Et je me suis rendu compte que... un corps, c'était un corps, en fait, et que tout le monde avait un corps, et que ce truc de se couvrir pour se protéger, pour ce machin, mais en fait, t'étais pas obligé de porter un hijab pour avoir un rapport sain à ton corps. Donc faire du sport, ça m'a aussi aidé, en fait, à passer le cap et à le retirer. J'ai commencé à faire des sports de combat, et à un moment, je me suis intéressée donc au jiu-jitsu brésilien et au grappling. Et en fait, je continue à mettre un truc sur la tête. Mais c'est juste pas possible, en fait. Ce sport, c'est du corps à corps. C'est des étranglements, c'est des clés. T'as souvent ta tête sous l'aisselle de quelqu'un. Il y a toujours un truc qui glisse. Et les mecs savaient. Mais très respectueux, jamais personne ne m'a fait une réflexion. Et je me souviens d'une scène où un pote, Guillaume, en fait, qui me fait un étranglement. Et à un moment donné, en fait, mon truc part en arrière. Et en fait, il me le remet. Et il finalise son étranglement. Et en plus, moi, bon, je débutais, donc déjà, de toute façon, je me faisais tout le temps des clés, des étranglements toutes les deux minutes. Mais je résistais même pas très bien parce qu'en fait, j'étais toujours là préoccupée à retenir ce que j'avais sur la tête. Je continue à me faire étrangler tout ça, mais bon, avec plus de panache, ma défense, elle est plus, parce que j'ai plus à me préoccuper. Et donc, ouais, j'ai fini par. En fait, quand est-ce que je l'ai vraiment retiré? C'est quand j'étais à l'étranger. Donc en 2016. J'ai été retenue, en fait, pour deux programmes, un programme à Singapour et un programme aux États-Unis, des programmes longs d'un mois. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Là, tu vas quelque part, on te connaît pas, on va pas te questionner. Et puis, je me suis coupé les cheveux très courts. Moi, je suis pas coquette. Je fais du sport tous les jours, donc je me douche deux fois par jour. Et donc, je me suis retrouvée, donc coupe courte, à l'étranger. Et en fait, je me suis sentie... libre, pas libre parce que je n'étais plus sous le joug de mon père ou de mon frère ou de je ne sais quoi. C'est libre, en fait, libre du regard des gens. Ou quand les gens te regardent, c'est pour te complimenter. Ah, t'es stylé, ah, machin. Mais on te calcule pas, en fait. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'en fait, quand je me suis dévoilée, bah après, j'ai fini par poster une photo sur les réseaux sociaux de moi sans hijab. Je m'attendais, en fait, à des réactions hyper agressives ou autres. Il y en a eu quelques-unes, mais la plupart, en fait, c'était... ah, t'es jolie, ah, machin, même pas du soutien, c'était des gens, en fait, qui avaient fait comme si j'avais toujours été comme ça et que j'ai juste posté une photo un matin et puis, en fait, j'ai vu aussi petit à petit autour de moi des personnes de mon entourage proche ou lointain, ou même d'anciennes lectrices avec qui j'avais gardé contact, qui, en fait, elles aussi avaient questionné leur hijab et qui petit à petit ont commencé à se dévoiler. Mais je me suis rendu compte que les moins tolérants de mon entourage, c'était notamment des amis qui portaient pas le hijab, qui étaient de culture musulmane comme moi. Et je me souviens d'une très bonne amie qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui m'avait dit « Non, pas toi, le hijab, c'est toi. » Je dis « Comment ça, le hijab, c'est moi ?» Elle me dit « Non, mais c'est toi, si ça fait partie de ta personnalité. » Je dis « Bah écoute, si le hijab, c'est si génial, pourquoi toi, tu le portes pas, en fait ? Porte le hijab, si c'est bien. » Je dis « Parce que vous vous rendez pas compte, en fait, de ce que ça coûte, en fait, de porter le voile. Ça coûte des choses psychologiquement, ça coûte économiquement, ça coûte socialement. » Et en fait, on paye encore les coûts, même quand on a retiré son hijab, on paye encore les coûts du hijab. Parce qu'en fait, tous tes choix scolaires, professionnels, tu les as fait en fonction de ton hijab. Alors moi, mon entourage... Alors mon frère, par exemple, parce qu'à chaque fois, on dit les grands frères, les machins. Moi, mon frère, il s'est jamais prononcé sur nos choix de vie. Il a toujours été là en soutien, mais il s'est jamais prononcé sur nos choix religieux ou autres. Et il a toujours été là pour nous. Donc franchement, je crois qu'il l'a même pas commenté. Il avait même pas commenté mon dévoilement. Mes sœurs continuent de le porter. Moi, j'en ai même une qui m'avait dit, écoute, j'en pense pas moins, mais c'est bon, je suis trop vieille, en fait, pour le retirer... Voilà, enfin, mais bon, moi aussi, j'ai évolué sur cette question-là, mais bon, voilà, maintenant, ça m'empêche plus de vivre, c'est comme ça. Mon père, il a pas trop commenté, même si lui, il aura peut-être plus tendance à commenter ma prise de distance avec la religion, mais toujours, en fait, en mode de discussion. Puis mes parents, ils ont vu, en fait, que j'avais pas changé. Enfin, j'ai changé, évidemment, mais je suis pas devenue une autre personne. J'évolue intellectuellement, mais je suis pas là en mode rejet de tout. Et moi d'ailleurs, voilà, je reste de culture musulmane, de toute manière que je le veuille ou non. Et encore une fois, c'est comme pour mes origines ethniques, j'en suis pas honteuse, j'en suis pas fière non plus, parce que c'est des choses qui sont imposées à moi. Et puis de toute manière, je suis pas à l'abri d'être victime encore d'islamophobie. Et puis je pense que j'ai aussi une forte conscience de classe, si je puis dire. Donc je suis très sensible en fait aux questions sociales, aux questions économiques, beaucoup plus en fait qu'aux questions religieuses ou ethniques, même si je ne suis pas en fait ignorante de ce que ça fait. Et parce que moi certains m'ont dit « ouais mais c'est pas le moment de parler de ces questions, parce que en fait il y a déjà trop de discrimination, trop d'islamophobie », ce qui est vrai, mais en fait ce sera jamais le bon moment. Et en attendant, il y a des femmes, et moi j'en ai fait partie, qui en fait freinent leur vie, freinent leur développement, parce qu'elles ne veulent pas faire plaisir à Manuel Valls ou à Caroline Forest, quoi. Et c'est pas une vie en fait que de s'interdire de vivre et d'évoluer, parce que des gens malhonnêtes intellectuellement en fait occupent l'espace politique et médiatique.
Et en fait, là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que celle qui a, disons, lancé la dynamique, c'était Mariam. Donc Mariam, elle en parlait souvent. Et puis à un moment donné, plus tu t'évolues, plus tu rencontres des gens, plus tu découvres le monde, et plus tu dis « non, là, je suis en train de m'enfermer dans quelque chose qui peut-être m'a convenu un temps, mais aujourd'hui, c'est plus complètement moi ». Moi, il n'y a pas eu un truc où je me suis levé le lendemain matin en me disant il faut que je le retire. Déjà, je ne l'ai pas retiré du jour au lendemain. Et ça s'est fait par étapes. Mais c'est à force, en fait, de oui, côtoyer des gens, en discuter avec ma Mariam, lire des choses, aiguiser sa lecture des choses aussi. Donc, ouais, à un moment donné, c'était devenu quelque chose que je portais, mais pour moi, qui n'avait plus aucun sens. Et que je portais par habitude. Voilà. Et ça n'avait plus aucune valeur religieuse, aucune. Pour moi, j'avais compris que les convictions, on va dire religieuses ou les croyances, ça relevait de l'intime avec. Ça n'allait pas forcément que ça se voit, quoi. Et je l'ai compris au fur et à mesure du temps. Et donc, j'ai mis quelques temps à le retirer. Et quand je l'ai retiré, je me suis dit waouh, ça fait bizarre. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien d'être anonyme dans la rue. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais finalement... Je comprenais pas. Des fois, t'avais des femmes qui... Surtout les femmes engagées et les féministes. Et je comprenais pas pourquoi, des fois, elles étaient hyper agressives. Mais pourquoi vous portez ça? Et en fait, là, je me disais, mais ouais, c'est vrai que quelque part, en le portant, je représentais quelque chose qu'on m'imputait. Moi, dans ma tête, j'étais bien. Hein, je représentais rien du tout. Vraiment une histoire traditionnelle, banale, normale, il n'y a aucun engagement ni rien. Et j'ai compris, je me suis dit, ouais, par contre, ça fait du bien de ne pas avoir essuyé des regards bizarres. T'asseoir dans le métro, personne ne... Il y a eu des épisodes dans nos vies où c'était dur, hein, avec les attentats. Ah, la rame de métro, je l'avais pour moi toute seule. Hein. C'était ça. Et là, aujourd'hui, il peut y avoir des fois je le vis moins, mais des effets un peu pervers de la discrimination ou je sais pas quoi. Mais là, je suis plus jugée sur mes compétences, mes qualités humaines que sur mon physique, mon apparence. Mais ouais, moi, ça m'a anonymisée. J'ai pas tendance à regarder en arrière, mais je me dis, en fait, si je l'avais pas portée, ma vie, elle aurait été comment? Elle aurait été peut-être parfois moins dure à vivre. Mais en même temps, j'ai développé ce qu'on appelle des skills. Je suis devenue agile. Mais à l'époque, c'était pas à la mode, hein, d'être atypique et agile. Et ça m'a appris ça. Ça m'a appris à composer. Mais j'aurais aimé parfois être un peu épargnée, quoi. Ça m'a fait m'afforger, ça a forgé mon identité. Aujourd'hui, plus que jamais, franchement, je me sens bien, pleinement moi-même.
C'était Hijab and the City, un reportage d'Aladin Zayan, réalisé par Yaël Mandelbaum. Merci bien sûr à Khadija et à Mariam, l'attachée de production du Pied sur Terre, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, c'est Victor Candelave. Si son a tibi, na na kadidia ena ye ibi. Si kona tibi, na na kadidia ena ye ibi. Femini barula, yalunges ro kele kele kadia. Barula lo mumbes ro kele kele na na kadidia ala yeni kiyeu kadia na na kadidia kila yeni kiyeu kadia. So devils from my world, nada, so de que somos.
France Culture. L'esprit d'ouverture.